journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 21 décembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sibuya. Tout d'abord les titres. En RDC, 9 personnes, dont 8 enfants, tués dans une attaque d'hommes armés en Ituri. Le colis piégé qui a blessé vendredi un représentant russe en Centrafrique provenait du Togo. Et l'expéditeur a été identifié selon le procureur de Bangui. Au Cameroun, le journaliste Amadou Vamulke a été condamné tôt ce matin à 12 ans d'emprisonnement par le tribunal criminel spécial. Et au Sénégal, un juge ordonne le renvoi en prison du journaliste Pape Alé Niang, critique du pouvoir. L'Allemagne a restitué au Nigeria 22 bronzes volés au royaume de Bénin durant l'époque coloniale. Visite de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky ici à Washington. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des hommes armés ont tué 9 personnes, dont 8 enfants, et ont incendié des dizaines de maisons lors d'une attaque. Eddie Isango.
L'attaque s'est produite dans le village d'Azimini, dans la province de l'Ituri, lundi après-midi, selon Jérôme Oupion-Djaba, responsable de la société civile. Selon lui, 9 corps ont été découverts le mardi matin, dont ceux de 8 enfants tués à la hache et d'une femme âgée abattue par balle. Les victimes sont toutes les membres de l'ethnie l'hindou. Il ajoute que les miliciens ont aussi incendié plus de 100 maisons et volé du bétail. Il pointe du doigt la milice Zaïre, qui s'est définie comme un groupe d'autodéfense de l'ethnie Hema. Vendredi, des membres présumés de la même milice Zaïre ont tué 12 personnes, dont 5 enfants. Les violences en Ituri ont repris en 2017 avec l'émergence de la milice Codeco qui prétend défendre la communauté l'hindou. La milice Codeco était représentée aux récentes négociations de paix à Nairobi, mais la milice Zaïre a décliné l'invitation à participer à ces discussions.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, par ailleurs, a adopté une résolution mardi assouplissant l'embargo sur l'exportation d'armes vers la RDC, une décision saluée par Kinshasa comme une injustice réparée. La résolution retire la mention qui exigeait précédemment que les pays informent le Conseil de sécurité et ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à la République démocratique du Congo. Kinshasa déplore depuis longtemps cette exigence qui crée, selon la RDC, un obstacle bureaucratique inutile dans sa lutte contre des groupes armés. Le colis piégé dont l'explosion a blessé un représentant russe en Centrafrique vendredi provenait du Togo et l'expéditeur a été identifié selon les premiers éléments de l'enquête, a déclaré mardi le procureur de Bangui. Le chef du groupe paramilitaire russe, Wagner, avait immédiatement imputé cette attaque à la France, démentie de Paris qui a retiré ses soldats de la RCA à cause de ce groupe. Le ministère russe des Affaires étrangères avait de son côté évoquer un acte criminel visant à nuire au développement des relations amicales entre Moscou et Bangui, sans toutefois désigner de commanditaire présumé. La Centrafrique, pays en guerre civile depuis 2013, est au cœur de la stratégie d'influence russe en Afrique. Au Cameroun, le journaliste Amadou Vamulke a été condamné tôt ce matin à 12 ans d'emprisonnement par le tribunal criminel spécial après 6 ans de détention sans jugement. Il est poursuivi pour détournement de fonds pendant qu'il a occupé les fonctions de directeur général de la CRTV, la radio et télévision d'État. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Au deuxième jour d'un procès marathon qui a débuté hier, le président du tribunal criminel spécial a déclaré le journaliste Amadou Vamulke coupable du détournement de fonds à hauteur de 45 millions de francs CFA. « J'espère me reposer enfin en paix, mais ce matin, le droit de la force a vaincu la force du droit », a lancé M. Vamulke à l'endroit des 3 juges de la collégialité avant le verdict final. Moïse Pofon, l'avocat de la CRTV, a qualifié la condamnation du confrère Vamulke de juste cause au regard du préjudice économique subi par l'organisme étatique, mentionne un autre avocat de la partie civile. Amadou Famulke, a été condamné au même moment que l'ancien ministre des Finances, Polycarp Abaaba, qui écope de 17 ans d'emprisonnement. Tous deux ont été reconnus coupables de détournement en coaction de plus de 570 millions de francs CFA. Amadou Famulke a été conduit 138 fois de sa cellule au tribunal criminel spécial de Yaoundé depuis son arrestation en 2016. Le 15 décembre dernier, Reporters sans frontières a classé l'ancien directeur général de la CRTV parmi les 8 cas les plus marquants de détention des journalistes en 2022. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Concernant toujours la presse, au Sénégal, un juge a ordonné mardi le renvoi en prison du journaliste Pape Alé Niang, selon ses avocats et le parquet. Il avait été remis en liberté sous la pression de la profession et des défenseurs des droits humains il y a moins d'une semaine. Le confrère Niang avait été inculpé et écroué pour notamment divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale. Le parquet de Dakar explique ce renvoi en prison par les dernières sorties médiatiques du journaliste qui sont, dit-il, une violation des obligations prescrites, notamment celles que lui faisait défense de communiquer sous aucune forme sur les faits objets de poursuite. Il reproche aussi à M. Niang d'avoir mené des attaques injustifiées aussi bien contre une autorité de la police que contre les enquêteurs. En Gambie, une commission parlementaire a recommandé mardi qu'une société pharmaceutique indienne soit interdite et poursuivie en justice pour le décès d'au moins 70 enfants qui ont été victimes d'une insuffisance rénale aiguë. Le point avec Nani Talani.
La commission parlementaire a recommandé mardi que l'agence de contrôle des médicaments du pays mettent les produits de Meden Pharmaceuticals sur liste noire et interdisent leurs produits sur le marché gambien. Elle s'est dite convaincue que cette société pharmaceutique est coupable et doit être tenue pour responsable de l'exportation de médicaments contaminés qui sont liés à la mort d'au moins 70 enfants cette année. Dans son rapport, la commission, créée en octobre, affirme que le gouvernement devrait engager des poursuites judiciaires contre Meden Pharmaceuticals. Le rapport parlementaire a aussi recommandé que les familles endeuillées soient indemnisées. La Gambie a déjà rappelé tous les sirops contre la toux et le rhume en circulation dans le pays, ainsi que tous les produits fabriqués par Meden Pharmaceuticals, dont l'usine de production en Inde a été fermée.
L'Allemagne a restitué mardi au Nigeria 22 bronzes de l'ancien royaume de Bénin pillés durant l'époque coloniale. C'était au cours d'une cérémonie officielle à Abuja, Michel Joseph.
La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est rendue à Abuja pour remettre les 22 objets, dont des têtes en bronze et d'autres œuvres. Lors de la cérémonie, elle a dit être venue pour réparer un tort. Lai Mohamed, ministre nigérian de la Culture, a salué cette première restitution. Il a aussi appelé les autres nations et musées détenant toujours des antiquités nigérianes à les libérer. Un accord a été conclu le 1er juillet entre Berlin et Abuja après des années de négociations pour la restitution d'œuvres réparties dans une vingtaine de musées allemands. Le seul musée ethnologique de Berlin possède 530 objets provenant de l'ancien royaume de Bénin dans le sud du Nigeria, dont 440 bronzes, la plus importante collection après celle du British Museum de Londres. Les bronzes, qui sont parmi les œuvres les plus réputées, ont été pillés en 1897 dans le sud du Nigeria actuel, quand une expédition britannique avait attaqué et détruit Benin City, emportant au passage des milliers de sculptures en ivoire et en métal.
Dans le reste de l'actualité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu ce mercredi à Washington pour son premier déplacement international depuis le début de la guerre. Il doit rencontrer le président Joe Biden et s'adresser au Congrès. L'élection présidentielle au Pérou a été avancée à avril 2024 par le Parlement dans l'espoir de mettre fin aux troubles déclenchés par la destitution du président Pedro Castillo, dont le sort alimente désormais une crise diplomatique avec le Mexique. Le gouvernement péruvien, qui a perdu le soutien du président mexicain Andrés Manuel López Obrador à Pedro Castillo comme une ingérence, a déclaré mardi persona non grata l'ambassadeur mexicain à Lima, Pablo Monroy, et lui a donné 72 heures pour quitter le pays andin. Les autorités talibanes ont annoncé mardi que les universités afghanes étaient désormais interdites aux filles déjà privées d'enseignement secondaire en Afghanistan depuis l'accession au pouvoir des fondamentalistes islamistes, restreignant encore un peu plus leur liberté malgré les condamnations internationales. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément alarmé et a exhorter les talibans à assurer l'égalité d'accès à l'éducation à tous les niveaux. La Minute Éco, Nani Talani.
Les principaux syndicats du Ghana appellent à une grève nationale à partir de la semaine prochaine pour protester contre l'inclusion des pensions des travailleurs dans un programme d'échange de dettes locales dans le cadre des conditions d'un crédit du FMI. Nous serons en grève jusqu'à ce que notre demande d'exemption de tous les fonds de pension du programme d'échange de la dette intérieure soit acceptée, a déclaré Yaoba, secrétaire général du Congrès des syndicats, lundi. La Tanzanie a signé mardi un contrat de 2,2 milliards de dollars avec une société chinoise pour la construction du dernier tronçon d'une ligne de chemin de fer de 2561 km visant à relier le port de Dar es Salaam sur l'océan Indien à Mwanza sur le lac Victoria. Cette ligne aura d'éventuelles dérivations vers le Burundi, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Le nouveau chemin de fer réduira les coûts de transport de marchandises entre le port de Dar es Salaam et la RDC d'un minimum de 6 000 dollars par tonne. Le temps de transport passera de 30 jours par camion à 30 heures par train en 2027. Terminons par le Zimbabwe qui, selon l'agence Reuters, interdit l'exportation de lithium non traité d'après un avis du gouvernement. Harare veut arrêter les mineurs artisanaux qui, selon lui, creusent et transportent le minerai à travers les frontières.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Accueil royal pour les Lions de l'Atlas, fêtés en héros.
Oui, des dizaines de milliers de Marocains ont accueilli hier mardi en héros les Lions de l'Atlas à leur retour à Rabat, après une épopée qui les a conduits en demi-finale du Mondial au Qatar, un exploit sans précédent pour une équipe africaine ou arabe. De nombreux supporters ont arboré le drapeau frappé de l'étoile verte et les maillots écarlates du royaume chérifien. L'équipe au complet qui a fait rêver tout le Maroc et au-delà de ses frontières a été reçue dans la soirée au Palais Royal par Mohamed VI en reconnaissance de son exploit historique. Le souverain a décoré le président de la Fédération marocaine, le coach et les joueurs accompagnés de leur mère. Portés par une ferveur populaire impressionnante, les Lions de l'Atlas ont brisé un plafond de verre en atteignant le dernier carré d'une Coupe du Monde pour la première fois pour une équipe africaine ou arabe. Ils ont pris la quatrième place du Mondial 2022.
NBA, les Suns de Phoenix sur le point d'être rachetés.
Le milliardaire américain Matt Ishbia veut conclure l'achat des deux franchises NBA de la capitale de l'Arizona, les Phoenix Suns et les Phoenix Mercury, l'équipe féminine, pour un montant record de 4 milliards de dollars. C'est ce que rapportent plusieurs médias. L'accord qui doit encore être validé après une enquête de solvabilité et un vote des propriétaires du club a été rapporté par ESPN et The Athletic. L'accord de 4 milliards de dollars viendrait confirmer une valorisation accrue des clubs de NBA, déjà constatée lors de la vente des Los Angeles Clippers pour 2 milliards de dollars en 2014, des Houston Rockets pour 2,2 milliards de dollars en 2017 et des Brooklyn Nets pour 2,35 milliards de dollars en 2019.
World Athletics révèle le processus de qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024.
Ce processus a commencé depuis le 1er novembre pour le marathon. Fort de 48 épreuves, l'athlétisme attribuera ses places, 905 femmes et 905 hommes pour les JO, à moitié avec un système de minima, puis pour la moitié restante sur la base du classement mondial. Ce système est privilégié d'année en année par World Athletics. La période de qualification pour la plupart des épreuves individuelles débutera le 1er juillet 2023. Celle du 10 000 mètres, de la marche et des relais débutera le 31 décembre 2022. La période de qualification pour le marathon a débuté depuis le 20 novembre. Chaque pays pourra inscrire au maximum 3 athlètes par sexe et par épreuve. Les fédérations choisissent les sélectionnés lorsque plus de 3 athlètes sont éligibles.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. De nombreuses questions ont été abordées au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique ici à Washington la semaine dernière et des accords ont été signés entre les États-Unis et plusieurs pays africains. Le président congolais Félix Tshisekedi était de la partie. Nathalie Barge a tendu le micro à sa porte-parole Tina Salama, qui revient sur certains sujets abordés lors de la rencontre.
Le président Félix Tshisekedi sait très bien quel genre de partenariat il veut avoir avec différents pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne et tous les autres. Il y a quelques années, on avait sorti la RDC de l'AGOA parce qu'il y avait, voilà, ils ne remplissaient pas les critères ou pour X, Y raison. Et nous, on s'est battus. On a commencé des échanges avec les États-Unis et on a été réintégrés dans l'AGOA. C'était quand même une victoire après une dizaine d'années. Et donc maintenant, on peut commercer avec les États-Unis. Donc en termes d'investissement, échanges et tout ça, nous, on est confiants. Je pense que ça va profiter à nos deux pays. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'à peine arrivé ici, le premier accord que nous avons signé, que la RDC a signé, c'était avec les États-Unis, donc le secrétaire d'État Anthony Blinken, sur les batteries électriques. Vous savez que la Zambie et la RDC possèdent 70% du cobalt mondial. Et donc, les deux pays avaient déjà signé des accords. On va construire des zones spéciales pour les batteries et tout ça, parce que c'est l'avenir de demain, les voitures électriques et tout ça. Et donc, les États-Unis se sont dit intéressés.
Est-ce que l'accent a été mis également sur l'agriculture ?
Effectivement, il y a vraiment un problème d'insécurité alimentaire et j'ai bien aimé parce qu'il y avait tout un panel dédié à ça, pas que pour la RDC, en tout cas avec beaucoup de pays. Et le nôtre a pris part à ce panel-là sur Food and Security. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a beaucoup de terres arables en RDC et qu'il nous manque, c'est vrai, certaines choses. Donc, on va voir comment on va se mettre d'accord avec les États-Unis.
Au niveau sécuritaire, alors ça c'est la question qui fâche dans la région. Est-ce qu'on peut avoir les idées un petit peu plus claires par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo et surtout comment ça a été perçu justement de la part des États-Unis lorsque vous avez fait des rencontres du point de vue sécuritaire, j'imagine, lors de ce sommet?
Le président est venu en tout cas remercier les États-Unis d'être le premier à avoir condamné le Rwanda ou avoir cité nommément le Rwanda dans ce qui se passe à l'est du pays. Et donc, Anthony Blinken l'a encore dit dès la fin du sommet, quand il a fait son point de presse, il a commencé par la RDC pour dire qu'il faut bien que la paix revienne en RDC. Et il a demandé au Rwanda d'user de son influence. Vous savez, c'est un diplomate. Il a demandé en tout cas au Rwanda d'arrêter son soutien au M23. Et donc nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est clair qu'il y a ce soutien-là. La question ne se pose plus. Les Nations Unies ont tout un rapport qui le dit clairement. Et nous, on veut vraiment que ça puisse cesser parce qu'il y a eu un gros massacre récemment à Kiishi. Il y a eu viol de beaucoup de femmes. Il y a vraiment un rapport accablant qui a été également fait par la mission onusienne en République démocratique du Congo. Notre ministre de la Justice est parti à la CPI et a rencontré les procureurs de la CPI pour demander à ce qu'il y ait un œil sur ce qui se passe ou sur les crimes qui sont commis dans cette partie de la RDC. Nous, ce que nous demandons à ces mouvements terroristes-là, c'est de déposer les armes, de se retirer des zones occupées, de permettre les convois humanitaires et on va voir comment on va discuter.
Tina Salama est porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi. Au Sénégal, le tourisme et la collecte de sel au lac Rose sont menacés par une montée spectaculaire des eaux pendant la saison des pluies. Des milliers de tonnes de sel qui ont été amassées ont été noyées par les eaux. Le point avec Ginny Nua.
La hausse brutale du niveau de l'eau et les pluies diluviennes, probablement liées au changement climatique, risque de faire disparaître la couleur si prisée du lac, due notamment à la concentration de sel. Les travailleurs effectuent les dernières récoltes avant l'épuisement en mettant dans des sacs le gros sel qui est utilisé pour la cuisine et exporté dans toute la région. La hauteur a presque doublé, il est impossible à présent d'extraire le sel traditionnellement, c'est-à-dire de remplir un seau en se tenant debout sur le lac. Et la plupart des hommes ne savent pas nager.
Parce que depuis deux mois, personne ne peut rentrer dans le lac pour travailler, parce qu'il y a des risques de noyade. Et le sel est au fond du lac, personne ne peut plonger pour exploiter le sel. Ça, c'est un problème. Et deuxièmement, si ce phénomène perdure, on risque de perdre complètement le sel parce que par dissolution, c'est un problème. Parce qu'il y a tellement d'eau douce dans le lac que si ça continue comme ça, donc il y a un sérieux problème. L'exploitation du sel va disparaître une bonne fois pour toutes.
Les cours d'eau naturelle historique qui se déversaient dans le lac Rose ont repris leurs droits avec les inondations de l'été dernier.
Ce que nous avons constaté, c'est qu'avec le retour des pluies, il y a eu des ruissellements importants que nous avons constatés dans ces zones-là, avec la reconstitution de marigots, de cours d'eau, et tous ces marigots et ces cours d'eau-là se sont, de façon naturelle, traînés, si vous voulez, et en suivant la topographie, vers le lac Rose. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il peut y avoir possibilité de pollution, ou etc. Ça, c'est des études peut-être qui pourront en fait confirmer tout ça.
Ibrahim Mbaye, gérant d'un hôtel au bord du lac Rose et président de l'association ARR, Lac Rose, garde toujours un œil vigilant sur le couloir d'évacuation d'eau se déversant dans le lac, en observant si oui ou non des poissons se trouvent dans les eaux. La disparition de sel est une mauvaise nouvelle pour le tourisme. L'attraction autour de cette nouvelle curiosité naturelle, où les eaux exceptionnelles virent journellement du mauve au rose écarlate, représente une forte source de revenus qui menace de disparaître. Les entreprises autour du lac, vendeurs, artisans et exploitants de bateaux qui emmènent les touristes visiter le lac, comptent leurs pertes et s'inquiètent pour leur avenir.
La destination du Sénégal va avoir des problèmes parce que le lac Rose, la chloration rose et l'exploitation du sel pouvaient amener beaucoup de monde à venir découvrir. Donc là, c'est une perte pour nous les artisans, c'est une perte pour les gens qui gravitent autour du lac, mais aussi c'est une perte pour le Sénégal économiquement.
Le lac Rose est l'un des sites les plus visités du Sénégal et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le Congrès recommande des poursuites pénales contre un ancien président du pays. En effet, la commission chargée d'enquêter sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole exhorte le ministère de la Justice à engager des poursuites pénales contre Donald Trump sur la base de 4 chefs d'accusation, y compris aide à l'insurrection. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, fait le point. Le récit est de Lionel Gahima.
L'enquête sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole s'est achevée lundi après 10 audiences publiques et plus de 1000 témoins. Le représentant démocrate Benny Thompson.
Si nous voulons survivre en tant que nation de droit et de démocratie, cela ne doit plus jamais se reproduire.
Le panel de 7 législateurs démocrates et de 2 républicains a fait une recommandation historique sur le rôle de l'ancien président Donald Trump dans l'assaut du Congrès. La représentante républicaine Liz Cheney.
Le 6 janvier 2021, pour la première fois, un président américain a refusé son devoir constitutionnel de transférer pacifiquement le pouvoir à son successeur.
Le comité, qui ne peut pas procéder à une mise en accusation criminelle, mais a fait des recommandations au ministère américain de la Justice concernant 4 chefs d'accusation contre Donald Trump. Le représentant démocrate, Jimmy Raskin.
Le comité estime qu'il existe des preuves plus que suffisantes pour un renvoi au pénal de l'ancien président Trump pour avoir aidé et appuyé ceux qui, au Capitole, se sont livrés à une attaque violente contre les États-Unis.
Les législateurs estiment également que Trump devait être inculpé d'obstruction à leur enquête, de complot pour fraude contre les États-Unis et de complot pour faire une fausse déclaration, le dernier point étant lié aux efforts de Trump pour nommer des faux électeurs dans le cadre d'un plan visant à inverser les résultats des élections de 2020. Jamie Ruskin, représentant démocrate.
Nous comprenons la gravité de chacune de nos recommandations, tout comme nous comprenons l'ampleur du crime contre la démocratie que nous décrivons dans notre rapport. Nous sommes allés là où les faits et la loi inévitablement nous mènent et ils aboutissent ici.
Le comité a aussi recommandé des poursuites pénales pour John Eastman, l'avocat de Trump, et des enquêtes d'éthique sur le potentiel futur président de la Chambre, Kevin McCarthy, et trois autres républicains membres du Congrès. Donald Trump a critiqué le travail du comité, le qualifiant d'injuste et de déséquilibré. Sarah Matthews, ancienne secrétaire de presse adjointe de la Maison-Blanche.
Si le président avait voulu faire une déclaration et s'adresser au peuple américain, il aurait pu être filmé presque instantanément.
Le rapport final de l'enquête de la commission sur l'attaque du Capitole sera rendu public ce mercredi.
Lorsque le président Joe Biden est entré en fonction au début de l'année 2021, il espérait rétablir la confiance en la démocratie après les allégations de vote volé en 2020, puis l'insurrection au Capitole le 6 janvier. Près de 2 ans après, la correspondante de la VOA au département d'État, Cindy Sain, se penche sur le bilan, ici aux États-Unis et à l'étranger. Récit de Michel Joseph.
Le président Joe Biden et son parti démocrate ont conservé leur majorité au Sénat, mais ont perdu la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, un résultat meilleur que prévu. Une autre victoire pour le président est que les électeurs ont rejeté de nombreux candidats qui ont fait campagne en avançant le récit mensonger selon lequel l'élection présidentielle de 2020 a été truquée. Écoutons Joe Biden, président des États-Unis.
Notre démocratie a été mise à l'épreuve ces dernières années, mais par son vote, le peuple américain s'est exprimé et a prouvé une fois de plus que la démocratie est ce que nous sommes.
Depuis l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole, plus de 900 personnes ont été inculpées pour cet acte. Et l'ancien président Donald Trump fait face à des déboires juridiques dans de multiples affaires. Les deux partis ont largement accepté les résultats des élections de mi-mandat de 2022, ce qui a conduit certains analystes, comme le chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman, à conclure que les institutions démocratiques américaines tiennent bon.
Il s'est passé quelque chose de tout à fait remarquable, où des républicains, des démocrates et des indépendants de principe se sont réunis, ont identifié les plus grandes menaces à notre capacité fondamentale de transférer légitimement le pouvoir, qu'il soit candidat au poste de responsable électoral dans les États, de trésorier, de membre du Congrès ou de sénateur, et ils ont voté contre chacune de ces menaces, les battant pratiquement toutes.
À l'étranger, M. Biden et le secrétaire d'État Anthony Blinken affirment que la répression des manifestations de rue en Chine et en Iran, ainsi que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mettent en évidence la lutte mondiale entre la démocratie et l'autoritarisme. De nouveau, le président Joe Biden.
Le leadership américain doit faire face à ce nouveau moment de progression de l'autoritarisme, y compris les ambitions croissantes de la Chine de rivaliser avec les États-Unis et la détermination de la Chine à endommager et à perturber notre démocratie.
Mais un analyste a déclaré à la VOA que la politique américaine ne correspond pas toujours au cadre pro-démocratique du président lorsqu'il s'agit de contrer les régimes autoritaires dans des endroits comme l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. Dalibor Rohak, du groupe de recherche American Enterprise Institute, nous en dit plus.
Ce n'est donc pas que le cadre est mauvais, mais plutôt que nous n'avons pas accompagné cette stratégie de politique efficace, comme des efforts de libération du commerce qui apporteraient des avantages tangibles aux populations en Inde et en Indonésie, par exemple, qui travaillent plus étroitement avec les États-Unis.
D'autres critiques disent que le président Biden devrait s'exprimer avec plus de force sur des questions telles que les protestations en Chine contre les politiques répressives de lutte contre le Covid ou les rassemblements anti-hijab en Iran déclenchés par la mort en garde vue de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans. L'ancien vice-président Mike Pence a exhorté la Maison-Blanche à s'exprimer davantage, rappelant que l'ancien président Barack Obama a admis avoir commis une erreur en ne s'exprimant pas lors de manifestations similaires en Iran en 2009.
J'ai bon espoir que le président Biden prendra ce conseil, si ce n'est de moi, alors du président avec lequel il a servi, et qu'il laisse l'Amérique s'exprimer et parler au nom des gens en Chine.
Les experts ne s'accordent pas sur la meilleure façon pour le président Biden de persuader d'autres pays de renforcer la démocratie. Certains suggèrent que la guerre de la Russie en Ukraine a été si déstabilisante que l'administration Biden ferait mieux de présenter la lutte mondiale contre les autocrates comme un choix entre stabilité et instabilité.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter.